Je vais ouvrir la bouche pour dire des sentences, pour proférer des énigmes, des tendances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous l'avons tous, depuis bien longtemps, compris, mes très chers frères, l'Ancien Testament avait annoncé et figuré ce que le Christ a prêché et réalisé, et que l'Église continue après lui jusqu'à la fin des temps. Autrefois, en des époques pédagogiques normales, ce fut un exercice commun de montrer dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ l'accomplissement des oracles prophétiques. Il en est un, au deuxième verset du psaume 77, qu'aujourd'hui encore, par le ministère de l'Église, le Seigneur nous rappelle et accomplit. J'ouvrirai ma bouche pour des paraboles, je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Souvent deux fois, en effet, notre Seigneur Jésus-Christ enseigne sous diverses figures les plus profondes vérités, nous montrant les portes du ciel et les portes de l'enfer. Ainsi, sous une enveloppe vile, il initie aux plus sublimes vérités et enseigne la plus exacte doctrine. Bien évidemment, les sages et les savants que le beau monde honore, arrêtés par ses faibles apparences, les méprisent et les rejettent. En revanche, les humbles et les petits que le beau monde ignore, rassurés par ses simples apparences, l'écoutent et les reçoivent. Vous avez caché ces choses aux sages et aux savants, et vous l'avez révélé au tout petit. Prions notre Seigneur. Ces petits, ignorants des raisonnements orgueilleux du monde, se laissent conduire par ces douces clartés des paraboles. Ils y attachent leur mémoire, y ordonnent leur volonté, et ils trouvent immanquablement le salut et la vie. Paraboles ressemblent alors à la mystérieuse colonne de feu et de nuée qui, dans le désert, séparait le camp des Israélites de celui des Égyptiens. Ténébreuse d'un côté et brillante de l'autre, elle conduisait pendant la nuit le peuple de Dieu vers la terre promise et en même temps, elle précipitait les gens de Pharaon à leur perte. Voilà pourquoi, selon le mot de Saint Pédis, aujourd'hui pour les choses de la religion, la plupart des hommes doivent être rangés parmi les ignorants. Pour nous, chrétiens, à qui il a été donné de percer ces voiles obscures, tâchons de découvrir la réalité du royaume des cieux en examinant deux paraboles que la liturgie de l'Église nous a présentées dans le propre de la messe du sixième dimanche après l'Épiphanie. Il n'y a pas si longtemps pour que vous les ayez déjà oubliées, le grain de sève et le levain dans la pâte. Il faut d'abord convenir que le royaume des cieux n'est pas autre chose que la religion. Parfois, règne Jésus. Le règne éternel de la divinité est venu sur la terre par l'incarnation du Verbe qui, vrai Dieu, a voulu se faire vrai homme pour que l'unique sacrifice rédempteur ouvrit le ciel aux gens. Ce grain de sève qui, jeté en terre, devient un arbre pour tous les oiseaux du ciel, nous représente le Christ qui, parce qu'il est tombé en terre et qu'il est mort, communique tous les fruits de la grâce qui est sa propre vie. Le grain de sève qui est devenu un grand arbre où viennent loger les hommes régénérés par grâce annonce les progrès de la religion qui porte et abrite les croyants dont le Christ est toujours davantage le chemin, la vérité et la vie.
Par ailleurs,
se leva. Qu'une femme ainsi nue dans 3 mesures de farine, et qui la change toutes. Nous figurent les changements qu'opère la grâce dans les âmes, la lumière et les vertus qu'elle communique dans le cœur, qui n'y mettent point obstacle. À quoi pourrait bien servir la religion si elle était autre chose que la grâce? Je veux dire, reprenant une fois encore le mot bien connu de Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué, c'est Jésus-Christ tout entier, c'est Jésus-Christ homme parfait, c'est Jésus-Christ dans sa plénitude. Pourquoi, demandons-nous peut-être, le Seigneur, plutôt que de se montrer d'un coup, que de montrer d'un coup clairement sa doctrine, pourquoi se sert-il de paraboles? Pourquoi prendre le détour des choses de la nature pour annoncer sous les voiles les grands prodiges de la grâce? J'ouvrirai ma bouche par des paraboles, je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Pourquoi attendre? Imaginez un instant, que le Christ, en entrant dans le monde, eût laissé échapper le moindre des rayons de l'éternelle gloire qui, dans le ciel, environne le Verbe divin. Imaginez qu'il en eût seulement montré autant qu'en virent 3 de ses apôtres lors de sa transfiguration sur le monde. Tout l'univers, ébloui et stupéfait, ne fut-il pas tombé à ses pieds pour l'adorer, le souffle coupé? Personne ne doute. Mais tel n'est pas le dessein du divin sauveur, qui ne veut pas conquérir les hommes par les évidences de la terreur, mais qui veut les conquérir par l'élan de son amour. Comme il veut gagner nos hommages sans les pencher, et veut aussi que notre foi nous soit méritoire, il cache sa divinité. Il paraît sur la terre comme un homme, semblable aux hommes, et par son aspect reconnu pour un homme, en toute chose, hormis le péché. Si quelques prodiges qui sont survenus dans le cours de sa vie semble découvrir un peu de sa grandeur et de sa gloire, il s'empresse le plus souvent de les obscurcir lui-même, pour n'en laisser plus subsister qu'autant qu'il en faut pour réconforter les véritables croyants qui, avec le secours de sa grâce, appliquent leur intelligence et leur volonté à le suivre sur le chemin de la vérité où est la vie. Ce qui était visible chez notre Rédempteur est passé dans les mystères sacramentaires. Pour rendre la foi plus pure et plus ferme, la vue a été remplacée par l'enseignement. C'est à l'autorité de celui-ci que devaient obéir les cœurs des croyants, éclairés par les rayons du ciel, écrit Saint Léon le Grand dans une de ses homélies sur l'Ascension. Ces vrais croyants n'ont pas d'autre contrainte que de s'efforcer de répondre à l'amour divin, qui s'est incarné pour prendre sur lui les péchés du monde et les expier dans le sacrifice de la croix, afin de leur ouvrir le ciel et de se donner continuellement à eux pour qu'ils y parviennent. Or, pour ces croyants, le ciel n'est point un possible avenir hypothétique, un autre monde qui serait ailleurs et plus tard, mais déjà sur cette terre, l'état présent de ce qui tâche de recevoir la grâce pour mieux croire et pour mieux vivre. Cependant, Jésus-Christ a bel et bien enseigné, et par les Écritures, et par le ministère de l'Église, enseignant encore à tous les hommes, des choses cachées depuis la fondation du monde. Mais quelles choses, grand Dieu ? Que sont-elles donc ces choses ? Le mystère du salut, le mystère du royaume de Dieu qui est déjà là, au cœur d'un implacable but, où jusqu'à la fin du monde, le mal s'oppose vigoureusement au souverain bien. Ces choses étaient cachées depuis la fondation du monde. Elles sont proférées dans des paroles qui semblent encore les cacher. Ce n'est pas qu'elles soient réservées à des penseurs initiés, mais qu'elles ne peuvent être comprises que par des gens qui sont prêts à écouter le Seigneur, que par des gens qui sont prêts à écouter le Seigneur parce qu'ils veulent être purifiés, parce qu'ils veulent devenir meilleurs. Repentez-vous, proclamèrent et Saint Jean-Baptiste et Jésus, car le royaume de Dieu est proche. Il ne s'agit, pour croire et pour comprendre, que de se convertir au Christ où se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. À ceux qui se veulent convertir, qui ne veulent considérer la marche du monde que dans le regard de Jésus-Christ, il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Quant aux ordres, dit Jésus, s'accomplit pour eux la prophétie. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Et regardant, vous regarderez et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi et ils sont devenus durs d'oreilles et ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent avec leur cœur qu'ils ne se convertissent, car alors je les aurai guéris. Les choses restent cachées. Mais les choses ne restent cachées qu'à ceux qui ne veulent pas se convertir et qui s'échinent à donner l'histoire du monde à l'histoire du monde d'un autre sens que celui qu'enseigne le Christ. Comment pourrait-il voir les choses? Cet homme révolté qui se livre sans retenue aucune à tous les écarts de son imagination, à tous les désordres de ses sens, à toutes les fureurs de ses passions insensées. Il s'est d'abord façonné de faux dieux qui lui reportent, qui lui ressemblent en ce qu'il y a de plus épouvantable, cruel, jaloux, impudique, vicieux. Rappelez-vous le vieux Polyeux. Des crimes les plus noirs vous souillez, donc, ô Dieu, vous n'en punissez point qui n'est son maître aux cieux. La prostitution, l'adultère, l'inceste, le vol, l'assassinat et tout ce qu'on déteste, c'est l'exemple qu'à suivre offre aux immortels. Et quand il n'eut plus besoin d'idoles, de bois, de marbre ou d'or, comme vous les voulez, il se mit à se déifier, à déifier en lui-même les obstacles de toute nature et de tout genre qui contrarient le royaume des cieux. Ses sens, au-dessus desquels il ne veut pas s'élever, son imagination qu'il ne veut pas captiver, son intelligence qu'il ne veut pas ordonner, son corps qu'il ne veut pas dominer. Il s'abandonne alors à ses passions que le christianisme vient combattre et mobilise pour leur épanouissement la raison même qu'il répute ennemi de la religion. Nul mieux que Jésus-Christ et l'Église avec lui n'a mieux démontré la réalité de ce grand et unique combat qui occupe toute l'histoire et la destinée du monde. Voilà les choses cachées depuis la fondation du monde. Jusqu'à sa destruction finale, le monde dont on connaît le prince sera l'empire de la corruption et l'implacable ennemi de l'Évangile. Cependant, en définitive, il sera vaincu. Il ne sera même plus la cause du sang de l'agneau, mais à cause de la parole et de leur témoignage. Ce que l'antique adversaire veut nous montrer comme irrésistible victoire du mal est, en dépit des apparences, le triomphe de la religion. Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et telle est la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Qui est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, écrit le Saint-Apôtre Jean. Le mal, qui ne peut pas l'emporter définitivement sur le bien, reprend de la vigueur lorsque ceux qui ont été choisis pour faire des disciples de toutes les nations mettent ailleurs leur énergie et se gardent de dire la foi. Avez-vous entendu la première homélie que donna notre nouveau pape le lendemain de son élection? Je cite. Ce que j'aurais craint de dire moi-même il n'y a pas si longtemps du haut de la chaire, enfin du bâton. Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, me vient la phrase de Léon Bois. C'est assez badin que le premier auteur du monde que cite François Ier soit Léon Bois. Ça vous serait venu à l'idée, vous ? Le catholique apocalyptique. J'aurais pas eu ce culot. Enfin, pas à ma première homélie syndicale. Venir. Celui qui ne prie pas le Seigneur, prie le diable. Voilà ce qu'il cite de Léon Bois. Celui qui ne prie pas le Seigneur, prie le diable. Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, continue le pape, on confesse la mondanité du diable et la mondanité du diable. Argentin, mondanité, ça n'a pas le même sens qu'à Versailles. Vous l'aurez compris, sans même que je. Mais je sens à votre réveil tout à coup qu'il faut que je vous dise deux mots pour vous rassurer que ce pontificat a l'air de vous inquiéter. Vous avez lieu de vous inquiéter esthétiquement. Mais pour le reste, qu'est-ce qui pourrait bien vous jouer? L'option préférentielle pour les pauvres, comme Saint-Pédis, comme le curé d'Ars, comme Saint-Vincent de Paul. Tout dépend ce que nous appelons pauvreté. Si c'est faire pauvre, comme nous l'avons suivi pendant 50 ans, nous le rejetons tout à fait. Si c'est être pauvre, à la manière évangélique, c'est tout autre affaire. Ce curieux pas, premier pape jésuite, nous emmène à une époque très lointaine, c'est-à-dire à la première compagnie de Jésus, à l'époque où Saint Ignace était un dévot de Saint François d'Assise. C'est pas le misérabilisme dont il s'agit, c'est de la véritable pauvreté évangélique qui ne veut appauvrir ni la doctrine, ni la morale, ni la parole de Dieu. Pour le reste, contre vous sont coalisés deux ennemis, à l'occasion alliés quand ils ne peuvent pas trouver mieux. Le marxiste révolutionnaire, et vous avez un adversaire de la théologie de la libération, c'est assez dire, et le libéral réformateur. Lisez ce qu'il a dit contre le néolibéralisme et vous serez tout à fait rassurés. Oui, mais quoi? Le précédent pape, dont la mémoire est à jamais glorieuse, vous a fait passer d'un état de ghetto à un état de droit commun. Vous étiez une parenthèse miséricordieuse, après on ne sait pas très bien ce que vous avez été, depuis certains motus proprio dont vous avez entendu parler sans doute. Vous êtes dans le droit ordinaire. Vous êtes dans le droit normal. Qu'est-ce qui va vous arriver? On va piétiner ce droit? C'est peu pensable. Oui, mais le pape ne nous a donné aucun signe. Parce que Benoît XVI, vous en avez donné avant que le motus proprio. vous savez que j'allais avoir un auditoire tellement choisi, je ne pouvais quand même pas hasarder des bêtises. Tout l'extrait de son audience au gouvernement du vendredi 15 mars, ce paragraphe. Et cette connaissance et cette ouverture mutuelle nous ont facilité la facilité à l'action de l'Esprit. Lui, le paraclet, est l'acteur premier de toute initiative et manifestation de la foi. C'est curieux. Cela me fait penser, évidemment, il n'a pas un style écrit. Hein. Nous avons, depuis, ça nous est arrivé depuis très longtemps, un pape prédicateur. Ça ne va pas durer, vous savez bien. Même pour l'Angélus, ce matin, il avait déjà le texte écrit. Pourtant, il n'y a pas rien à dire. Et là, il parle. Profitons-en, hein. Cognons la fleur. Ça ne va pas durer sans temps. Cela me fait penser. Le paraclet fait toutes les différences dans les églises. Vous avez entendu? Le paraclet fait, fâche, toutes les différences dans les églises. Et il semble que ce soit un apôtre de Babel. Mais d'autre part, il est celui qui fait l'unité de ces différences. Non dans l'égalité, mais dans l'harmonie. Je me rappelle ce père de l'Église qui le définissait ainsi, ipse, harmonia est. Paraclet qui donne à chacun de nous des caractères différents, nous unit dans cette communauté de vie qui adore le Père, le Fils et lui, l'Esprit Saint. Est-ce qu'après avoir dit une chose pareille, avoir déclaré un amour universel, pour je ne sais quel mystère, vous seriez exclu, vous, de ce grand mouvement? Dans le discours au cardinal, ne cédons jamais au pessimisme, à cette amertume que le diable nous offre chaque jour. Ne cédons pas au pessimisme et au découragement. Nous avons la ferme certitude que l'Esprit Saint donne à l'Église par son souffle puissant le courage persévérant. Eh bien, jusqu'à la preuve du contraire, persévérant. Ces bonnes choses étant dites et voyant les sourires de nouveau venir sur vos visages, ce qui convient à un temps pénitent sorti au moment de la passion, je reprends le cours de mon discours pour sa dernière partie. Si les nouveautés avaient réellement rendu le monde bien meilleur qu'il le voulait, outre que nous ne pourrions plus comprendre les difficultés que la religion a dû éprouver pour s'y établir, nous ne comprendrions moins encore celles qu'elle éprouve maintenant pour s'y soutenir. Mais quand nous voyons le monde, toujours en contradiction avec Jésus-Christ, outre que nous pouvons concevoir qu'il a fallu des faits bien évidents et bien palpables pour faire entendre l'Évangile, nous sommes convaincus qu'il ne faut rien moins que le constant secours de la main divine pour empêcher que l'esprit du monde étouffe totalement l'esprit des monnaies. Les persécutions continuelles et diverses qu'a toujours souffert et que souffre encore l'Église à la part du monde sont une preuve toujours présente de sa divinité et de sa puissance que rien ne pourra jamais arrêter. Dans le monde, vous avez de l'affliction, dit Jésus. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Comme nous aimerions faire prêcher, voir un peu mieux sur cette terre de nos jours les effets de l'inévitable victoire de Christ. Cela se pourrait peut-être de manière passagère, mais certainement pas de façon durable. Jésus ne vous l'a pas promis. Il vous a plutôt annoncé le contraire, comme vous l'ont dit bien les textes que vous avez entendus et lus, singulièrement ceux qui, chaque fin d'année, nous amènent jusqu'au temps de l'Avent. puisque vous ne pouvez pas grand-chose sur le monde, vous pouvez beaucoup pour établir le royaume de Dieu en chacune de vos personnes, pour rompre avec le monde sans pour autant le quitter. Qu'est-ce l'homme contraire au royaume des cieux? Un être égoïste qui, dans tout ce qu'il est, n'aime que soi. Un être monstrueux qui ne se sert de sa raison que pour dominer les autres. Un être infortuné qui n'efface de son âme l'idée d'une autre vie que pour avoir plus de douleur en perdant celle-ci. Un mélange singulier de grandeur et de bassesse, de raison et de déraison, de gloire et d'ignominie. En un mot, le plus coupable, en même temps, et le plus malheureux de tous les êtres, parce qu'il sent mieux son malheur. Et qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce que la société contraire au royaume de Dieu? Un chaos désordonné, où s'entrechoquent le bien et le mal, un séjour de confusion, où les passions les plus forts exploitent et dépouillent les plus faibles. Point d'ordre ni de paix, mais de mauvais équilibres, fait de peur et de scandale, de peur et de reculade. Les crimes cachés n'ont plus de fin. Les désordres publics ont moins d'obstacles. Les peuples ont peu de retenue. Tout est permis à qui tout est possible. On ne fait plus de distinction entre le bien et le mal, entre le vice et la vertu. Le monde moral est en proie au désordre et à la confusion. Au moins, chrétiens, nous sommes dans un monde où tout paraît possible. Je n'ai pas de lumière sur ce que nous réserve l'avenir, mais jamais je n'aurais imaginé que l'on que je puisse connaître de mon vivant cette bizarre époque amorale. Je me plais à regretter l'époque immorale. Au moins, quand l'époque était immorale, parce qu'on faisait le mal, on savait qu'on le faisait. Une époque amorale, il n'y a plus de morale. Donc, on ne sait pas qu'on fait le mal. À tel point que le mal a pu prendre la place du bien et le bien a pu prendre la place du mal. Le bien et le mal ont bien pu échanger leur place. Et c'est bien là où nous sommes, notre sage. Et si vous savez qu'il y a un bien et qu'il y a un mal, c'est bien parce que Jésus vous l'a appris. Mais ceux qui n'ont pas entendu la parole de Jésus, comment sauront-ils que c'est un bien? Comment sauront-ils que c'est un mal? Allons-nous capituler? Non. Vous vous souvenez que si vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas dans le monde. C'est tout l'objet de la prière sacerdotale de notre Seigneur que vous ne tenterez pas à méditer au jeudi saint, le 17e chapitre de Saint Jean. Vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas du monde. Vous n'avez qu'un seul maître auquel vous voulez croire et obéir. Un maître qui vous garde, un maître qui vous soutient, pour autant que vous gardiez fidèlement sa parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.